Marceau le matin et non l'émission On en jase. Je m'excuse, j'anime l'émission On en jase sur l'heure du midi. D'ailleurs, on va être là, moi et Pascal, le CV tout à l'heure à compter de midi. Alors, c'est ce qui va suivre justement dans la programmation. On va être après le point de max, évidemment, de 10h à midi. Le retour de Gravel va être là ce soir. Pour le reste, bien, la programmation de la semaine prochaine. Moi, Pascal CV et Max Larouche dans Marceau le matin. Le point de max est là. On en jase est là. Retour de Gravel, normal. On a nos rendez-vous également du Pit Stop à 7h45 avec Denis. Le caucus, ce ne sera pas Antonine Iaccarini, mais Victor Henriquez qui va la remplacer à midi. Et l'open mic avec Audrey Pinchot dans le point de max à 11h. Et 22, 23, 24 décembre, on vous propose cette programmation suivante. Jeff Fortin, Pascal CV et Mathias Turcotte dans l'actualité ne prend pas congé. Par la suite, on va y aller tout simplement avec le point de max et Audrey Pinchot qui sera là pour les meilleurs moments de retour du retour de Gravel. Il est présentement 9h33. J'ai le bonheur d'accueillir Émilie Pelletier en onde, journaliste aux affaires municipales pour le journal Le Soleil. Salut Émilie, comment ça va?
Bon matin, JF, ça va bien toi aussi?
Ça va super bien. Émilie, tu sors d'une rude épreuve, rude semaine de plénier budgétaire. Là, t'en as-tu plein la tête puis tu sais plus quoi faire?
Non, j'ai plein d'idées de reportages pour les semaines qui s'en viennent. Puis je pense pas que c'est pour les journalistes que c'est le plus exigeant, mais bien sûr, pour les élus, c'est quand même tout un marathon là, qui vient de se compléter. Hein. La présentation du budget de la Ville de Québec nous a été faite mercredi dernier, le 3 décembre. Et puis, depuis jeudi passé, tous les jours, ils ont passé des heures en chambre pour se faire détailler finalement le budget de chacune des unités administratives de la Ville de Québec. C'est donc, c'est assez costaud, oui, effectivement.
Exactement, pour se faire une idée. Qu'est-ce qu'on pense du travail de l'opposition? Parce que ça avait très mal commencé, là. Stéphane Lachance a été absent la première journée. Donc, il n'a pas pu parler au directeur général de la Ville de Québec. Et contrairement aux autres années, parce que je suis ça attentivement via les différents médias d'information, dont Le Soleil, j'ai pas entendu vraiment de sortie de l'opposition, contrairement à Claude Villeneuve les années précédentes ou Steven Smalençon et Patrick Paquette. Est-ce qu'on est vraiment en train d'apprendre le métier du côté de Respect Citoyen?
Mais je pense que c'est un peu comme ça qu'ils se l'expliquent aussi. Hein? Je veux dire, ils ont, en l'espace, il faut quand même se rappeler qu'ils ont été élus le 2 novembre. Là, hein? Donc, un budget déposé ensuite de ça le 3 décembre, ça laisse grosso modo un mois.
Là.
Puis, à partir l'opposition n'est pas au courant hein, de ce qui contiennent les documents budgétaires lorsqu'ils arrivent en poste. Donc, lorsqu'on les reçoit, j'ai pas l'impression qu'ils ont été briefés, si je peux dire, avant ça. Mm-hmm. Et nous, dès la première journée, représentants des médias, on leur demande de commenter le budget. Donc, c'est sûr que c'est tout un travail à décortiquer. Je me suis entretenue avec le responsable des finances, justement, au comité exécutif de la ville. Il me parle de 350 pages recto-verso, là, donc un 700 pages de documents budgétaires. C'est sûr que pour l'opposition, ils sont seulement que trois élus également. Donc, on dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu.
En effet,
se sont bâtis une équipe de recherche. Mais quand même, décortiquer un budget de 2 milliards de dollars, j'imagine que c'est quand même pas une mince affaire. Pour ce qui est des questions qu'ils ont posées en chambre, bien, c'est sûr qu'on on voit là un peu le reflet de leurs priorités. Hein. Il y a beaucoup de tramways, il y a beaucoup de pistes cyclables, de déneigement de pistes cyclables aussi dans les questions. On dénote parfois une certaine incompréhension peut-être par rapport à la machine municipale, mais je pense que c'est une question de temps. Sauf qu'effectivement, c'est sûr que par rapport aux sorties que pouvait faire M. Villeneuve ou Mme Smith, quand au bout de quelques années, lorsqu'on acquiert cette expérience-là, on n'en était pas là cette année.
Non, c'est ça exactement. Moi, ça m'amène à penser à quelque chose. Et là, loin de là, l'idée là, de casser du sucre sur le dos de Respect Citoyen, mais en tant que citoyen, va falloir être à l'affût si quelqu'un arrive de l'extérieur de la machine municipale dans la prochaine campagne électorale et promet maire et monde. Parce que du côté de Respect Citoyen, j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que le gras qu'on disait qu'on allait couper de réduction de 10 % du compte de taxes commerciales puis de gel de taxes, on se rend compte que ça fonctionnait pas. Là.
Mais je pense que ça, c'est le propre de la politique. Hein? Je veux dire, en campagne électorale, tous les candidats ont un peu le beau jeu de promettre toutes sortes de choses qu'ils souhaitent, puis c'est le reflet de la vision qu'ils ont pour la ville en tant que telle. c'est sûr que lorsqu'on se bute à l'ampleur de la machine, et ça, M. Lachance l'a reconnu d'entrée de jeu, dire c'est pesant, la ville de Québec, là, quand même. Et...
Ben, c'est la capitale nationale, c'est la deuxième plus grosse ville de la province.
Oui,
donc,
puis il y en a de l'argent là, qui rentre, qui sort. C'est un budget de 2 milliards de dollars, après c'est tout. Là. Donc, quand même, et ce budget-là, il faut quand même... il est préparé, hein, le budget pour l'année suivante, dès le mois de mars. Donc, par exemple, là, pour le budget de 2027, les fonctionnaires et l'administration Marchand vont se pencher là-dessus dès le mois de mars qui vient. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est rédigé sur une napkin, qu'il y a des dépenses à tout vent. Je pense quand même là, qu'il faut être conscient de tout le travail qu'il y a derrière ça. Mais c'est sûr qu'on a trouvé, là, nous, comme journalistes, que ça allait un peu vite cette année du fait qu'il y a une seule opposition, contrairement à trois auparavant. Il y a quand même moins de questions qui se posent. L'opposition a tenté de nous expliquer un petit peu qu'on leur avait... On les avait peut-être limités à un certain nombre de questions à raison de deux par conseiller par tour de questions.
Okay.
Sauf qu'on leur a fait remarquer par la suite que des tours, il pourrait y en avoir 14.
À l'infini,
si,
c'est ça.
On le voulait. Mais ils ont exprimé, dans le fond, leur volonté aussi de ne pas tirer sur le messager. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les fonctionnaires se mettent au service de l'administration Marchand et ils souhaitent plutôt critiquer les choix politiques que les gens qui les exécutent.
Qui les exécutent. Donc, voici une raison, ce qui peut être très, très, très louable. On a reçu un texto de Nicolas qui me disait hey, « Jeff, on va faire quoi avec le centre Newton, le terrain vague qui est là? » Ça fait partie justement des premières journées du budget. Le RTC est venu présenter son budget en trombe parce qu'on avait fait une erreur sur le net puis on l'avait publié. Ce qu'on retient, c'est que le RTC se retire complètement de l'électrification des véhicules. C'est un méchant pari qu'on prend là, du côté du nouveau président Yannick Fauteux.
Je pense que c'est un gros move, effectivement. Oui. Encore là, on parle de M. Fauteux. Il faut quand même considérer que le budget, comme il a été élu, M. Fauteux, le 2 novembre, le budget, lui, a été déposé du RTC le 29 octobre.
Oui, donc vient plus de Nicolas Girard et de Maude Mercier-Larouche.
Exactement. Ce sont les orientations de la précédente gouvernance, donc l'ancienne présidente Maude Mercier-Larouche, effectivement. Et je pense que c'est un choix, d'abord, qui a été salué par l'opposition et qui a été salué par plusieurs acteurs de l'industrie également. Le milieu s'entend depuis plusieurs années pour dire que l'électrification est quelque chose qui pèse extrêmement lourd sur les finances des sociétés de transport, que le gouvernement du Québec n'est pas nécessairement au rendez-vous pour le financer. Et dans le cas de la Ville de Québec et du RTC, c'est encore plus probant. Hein. On se souvient, c'est au dépôt du budget provincial au début de l'année 2025 où le gouvernement s'est retiré finalement de ce projet-là, a refusé de dire que c'était un recul notoire sur le projet, mais quand même une intention de mettre sur la glace parce que le projet était rendu évalué à au-dessus de 600 millions de dollars. Et le gouvernement du Québec a dit « Wow, minute, on va mettre ça sur la glace ». Donc, de ce fait, le garage Newton, qui doit être le troisième garage du RTC, le chantier est arrêté finalement depuis le printemps. Là. Donc...
Oui, puis je pense que c'était un bon geste de la part du RTC de le faire parce que ça va faire des petits. Le président de la TUC est sorti pour dire « Hey, on va copier le modèle du RTC » parce qu'on peut pas continuer à mettre de la pression comme ça sur les sociétés de transport sans leur donner les outils. Tu sais, il n'y a pas juste le garage au RTC, il y a 13 infrastructures pour les véhicules électriques à travers la province qui sont pas financées à l'heure actuelle. Donc, je pense que ça a été un geste courageux de leur part et bien fait puis qui va être salué par l'ensemble de la province. Et là, ça sera la CAQ de réagir. Là.
Oui, bien absolument. Hein. Le ministre Julien, justement, qui a quand même pas fermé la porte à revoir les cibles en électrification. Lorsqu'il a été questionné à l'Assemblée nationale, il a dit, on n'est pas dogmatique hein, et on peut offrir des délais supplémentaires parce que souvenons-nous que le gouvernement du Québec impose aux sociétés de transport qu'à l'horizon de 2030, elles aient électrifié quelque 55% de leur flotte d'autobus. Donc, c'est assez majeur. C'est un virage
très majeur.
Très important. Et puis, le début de 2025, oui, le gouvernement du Québec qui ne subventionne uniquement que les autobus électriques aussi. Donc, encore là, pour une société de transport qui veut acquérir de nouveaux autobus hybrides ou entièrement diesel, il n'y en a plus de subventions qui sont disponibles.
Et là, pour ce terrain vague-là, on veut quand même construire un nouveau garage
exact.
Parce qu'il y a des besoins. Je suis passé, moi, à côté du garage Métrobus sur l'avenue Chauveau dernièrement, il y a à peu près 2 semaines. C'est rempli d'autobus à l'extérieur. Puis là, ben, on s'entend, des autobus à l'extérieur, là, c'est de la maintenance, pas à peu près partir ça le matin aux températures qu'on a là.
Bien, absolument. C'est un peu ce que le directeur général du RTC, Nicolas Girard, explique d'ailleurs. Il dit... électrification ou non, ce garage-là, le RTC en a besoin parce que là, les autobus qu'on a sont tous entassés comme des sardines dans les deux garages actuels. Il y a des travaux à faire également dans ces garages-là. Et puis, il faut quand même se souvenir qu'on a un projet de tramway qui s'en vient et... dans l'intervalle, il y a quand même un réseau de transition qu'on appelle qui doit
exactement.
Être mis en place. Et ça implique en fait davantage d'autobus parce que ces autobus-là vont devoir être en fonction lorsqu'il y aura des chantiers majeurs qui vont se déployer à compter de 2026. Donc, on a comme beaucoup d'autobus et on a effectivement plus beaucoup de place pour les mettre. Donc, sans l'électrification, on parle d'une économie de 130 millions pour ce projet-là. On a budgété au RTC quelques 402 millions de dollars. Et là, on est en attente parce qu'on espère une subvention qui pourrait aller jusqu'à 85 % de la part du gouvernement du Québec. Et là-dessus, en tout cas, j'ai pas entendu le ministre des Transports se prononcer à proprement parler sur ce projet.
Ministre des Transports qui provient de la capitale nationale, on le rappelle, c'est Jonathan Julien. Tu parlais des pistes cyclables tantôt qu'on s'est attardé du côté de Respect Citoyen, tramway, pistes cyclables. Ça en a fait sursauter plusieurs, le 200 000 $ de plus pour le déneigement des pistes cyclables. Quand le maire Marchand, la journée d'avant, avait dit « Ouais, vos rues, attendez-vous à ce que soit la neige soit retirée un petit peu plus tard, parce qu'on veut que économiser 6 millions. » Ça paraît pas bien politiquement.
Mais oui, puis en même temps, il faut quand même... C'est quelque chose que... Mais je pense que ça prend une ampleur dans le débat public compte tenu du fait que c'est un des chevaux de bataille de l'opposition.
Clairement.
Ils en font quand même tout
Mais tu sais, si j'étais dans l'opposition, je ferais mon cheval de bataille avec ça aussi.
Je pense que c'est le propre de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition de critiquer les décisions. Puis on connaît un petit peu où le Parti Respect Citoyen loge en matière de mobilité active et de pistes cyclables, de retrait de cases de stationnement. Mais bref, quand même, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. 200 000 $ de plus au budget 2026 pour déneiger des pistes cyclables parce que le réseau, selon ce que l'administration Marchand nous dit, c'est que le réseau 4 saisons est en train de croître.
Sur un budget de 2 milliards, bof!
Bien, puis le budget du déneigement a été proposé par les fonctionnaires cette semaine, donc il a été adopté. 96 millions de $ pour déneiger pour l'année 2026.
J'avoue qu'on fait une grosse affaire avec ce qui s'apparaît être un petit montant quand même.
Je pense que, tu sais, c'est sûr que 200 000 $ sur 96 millions de budget, on pourrait aussi dire que c'est des pinottes. Puis en même temps, je pense que dans le contexte économique dans lequel on se trouve, l'administration Marchand semble dire qu'il n'y en a pas de petites économies à faire. Et pour le démontrer, bien, on envisage fermer des patinoires, notamment un peu partout.
5 patinoires extérieures.
On nous a dit qu'il y en avait 5 à 10 pour lesquels il y a une analyse là, qui était enclenchée. On chiffre autour de 35 000 $-36 000 $ l'aménagement puis l'entretien d'une patinoire pour un hiver.
Ouais.
Donc, enfermer une dizaine, peut-être, pourrait permettre de sauver 350 000 $ T'sais, quand on compare avec le déneigement des pistes cyclables, c'est sûr qu'on peut se dire...
Qu'est-ce qui est le plus utilisé? T'sais, on peut remettre en question ce choix politique-là, il n'y a pas de doute.
Ben, je pense qu'il y a une analyse définitivement qui est faite, mais c'est ça. On voit qu'on essaie de faire des économies qui ont été qualifiées d'économies de bout de chandelle par l'opposition.
Émilie, on est en 2025. On va franchir l'année prochainement dans à peu près 3 semaines pour 2026. On ne peut pas croire qu'on brûle 7,8 millions de cartons. Qu'est-ce qui se passe avec nos entreprises à Québec?
Oui, mais le maire de Québec a fait sursauter justement les journalistes lorsqu'il a parlé de cette statistique-là dès la présentation de son budget. Il a dit « c'est pas parce que le contexte économique est plus complexe qu'on doit reculer sur l'environnement. » Il a fait part de toutes ses ambitions en matière d'environnement. Il reprochait un petit peu au palier de gouvernement supérieur de reculer en la matière.
Ouais.
Et pour ce faire, il a dit, et nous, on est même prêts à la Ville de Québec, à sévir davantage auprès de ceux qui abondent pas dans le même sens de nous. C'est là qu'il a cité le cas des entreprises et c'est ce que les fonctionnaires responsables de la gestion des matières résiduelles nous ont confirmé cette semaine lors de leur présentation. Écoutez, là, à l'incinérateur de Québec, on brûle 250 000 tonnes de déchets par année.
Okay? Ouais.
De cette quantité de déchets qu'on reçoit pour l'incinération, il y a 40 000 tonnes de carton qui sont produites par les industries, commerces et institutions.
Mais là, il faut leur donner des pénalités. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas accepter ça. Là.
Mais c'est le maire Marchand a déjà fait son nid, disons, en vue du budget 2027. Il a laissé planer une nouvelle taxe là, dès le budget 2027 parce que, écoutez, on nous a expliqué que ça coûte à la Ville de Québec 196 $ pour chaque tonne de déchets éliminés à l'incinérateur. Mm-hmm.
Puis là, on s'en donne 250 000
ben là, il y a 40 000 tonnes de carton. Donc, si on fait 196 $ fois 40 000 tonnes de carton qui auraient dû être recyclées, c'est là le 7,8 millions de dollars que la Ville de Québec calcule qu'elle dépense sans raison.
Ben, tu sais, qu'on le donne en pénalité à ces industries-là. Là, je veux dire, on est rendu en 2026, là. Recycler, là.
Le recyclage, c'est au tournant des années 2000, après que ça a été implanté
exactement.
De manière...
Je me souviens d'être allé à Old Orchard en 2011. Et je suis allé voir un match de baseball. Toi, t'es une fan de baseball. Du 3A des Red Sox de Boston à Pawtucket. OK? Et on faisait une campagne avec des mascottes sur qu'est-ce qui va à la poubelle, qu'est-ce qui va au recyclage. Et là, on faisait l'enseignement aux enfants. Puis il y avait des publicités sur l'écran géant. Et je me souviens d'avoir dit à mon père et mon frère, son nom mère hier aux États-Unis. Mais le recyclage, on fait ça depuis des lunes, nous autres. J'ai appris ça au primaire. Fait que là, à un moment donné, les industries, il faut qu'ils contribuent.
Ça date, le primaire.
Ben oui, j'ai 40. Je vais avoir 46 ans. Merci de me le rappeler. Donc, non, mais rendu là, tu sais, je peux pas croire les industries recyclent pas. Là, ça, pour moi, là, c'est un non-sens total. Là. Puis je suis pas un gars qui est dans des grands courants ou débats environnementaux, mais ça, c'est la base.
Mais je pense effectivement qu'il y a ça de quoi étonner quand même, cette statistique-là. Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y a quand même un certain recul depuis la pandémie, qu'on s'explique partiellement par un roulement de personnel, peut-être dans certaines entreprises, certains commerces.
Ouais, quand même.
Il y a peut-être une méconnaissance, mais effectivement, je veux dire, 40 000 tonnes de carton sur 250 000 tonnes de déchets brûlés annuellement, c'est énorme. Puis quand on inclut toutes les autres matières recyclables, donc le plastique et les autres contenants, la Ville de Québec, oui, calcule que c'est 70 % des matières recyclables qui sont produites par les commerces et industries qui sont jetées aux ordures plutôt qu'envoyées au recyclage.
Non,
on ne recycle que 30 % des matières qui pourraient aller au recyclage.
Puis là, j'allais dire, il faut créer des incitatifs, mais non, il faut pénaliser ces gens-là. Là, rendu en 2026, ça fait aucun sens. Hey, Pierre-Luc qui demande, est-ce qu'on a des données d'achalandage sur les pistes cyclables? Parce qu'on parle de fermer des patinoires à cause de l'achalandage. C'est une bonne question.
Oui, bien, ça n'a pas été... J'ai pas souvenir de chiffres qui ont été partagés. Je me souviens qu'au premier hiver, hein, le premier corridor vivacité qui avait été implanté par l'administration Marchand. Là, ça me prend un peu de cours, mais c'était pour l'hiver 2023,
ouais,
je pense.
Exactement.
La Ville de Québec avait effectivement dressé certaines statistiques d'achalandage. Là, je n'ai pas en tête le chiffre précis, mais je me souviens que le responsable de la mobilité active à ce moment-là, Pierre-Luc Lachance, avait fait une sortie pour dire mais lorsqu'on se compare, par exemple, au début du réseau vélo métropolitain à Montréal. Écoutez, ça se compare en termes d'achalandage pour une première année. Donc, il disait, on est à peu près équivalent. Il faut comprendre que là, on n'a pas énormément d'infrastructures comme celle-ci, qui sont 4 saisons pour le vélo, mais plus on va le développer, bien, plus il va y avoir de monde. C'est un peu l'argument de l'administration Marchand. Effectivement, je pense que ces chiffres-là mériteraient d'être remis à jour pour voir combien d'usagers profitent peut-être de ces infrastructures.
Vraiment, je termine cet excellent tour de politique municipale avec toi, Émilie, du Journal Le Soleil. Émilie Pelletier, excellente journaliste en affaires municipales. Avec, je te fais entendre un extrait de Bruno Marchand, sa conférence de presse, que je vais le dire comme ça, qui a été appelé sur le champ concernant les politiques d'immigration de la CAQ.
Au final, le résultat est inhumain. Il faut juste parler à ces gens-là, Claude en a fait une démonstration, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain. Je ne suis pas en train de dire que le ministre Roberge ne l'est pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il a voulu ça. Je suis en train de dire, par contre, que les effets des décisions ont cette conséquence.
Mais ces politiques sont inhumaines, selon ce que vous dites. C'est pas, je ne parle pas de la personne, là, mais elles conduisent à une certaine inhumanité.
Que les politiques, avec les tenants et les aboutissants liés à ces politiques-là, conduisent à des situations intenables, humainement parlant. Alors, je ne prête aucune intention à qui que ce soit. Je fais juste dire, par contre, que le résultat est inacceptable.
Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2021, le maire Marchand fait de l'itinérance son cheval de bataille. Vient-il de trouver son nouveau cheval de bataille avec la CAQ, avec l'immigration?
Grosse question.
C'est une bonne question, hein?
Bien, écoute, je pense qu'il l'a justifié, même si ça a été critiqué par l'opposition qui disait le maire de Québec n'a pas à se mêler de dossiers qui sont de ressort des paliers supérieurs, notamment le gouvernement du Québec dans ce cas-ci, et à plus forte raison.
Je dois t'avouer, c'était ma première réaction de dire, voyons, il s'en va où le maire avec ça? De quoi il se mêle? Pourquoi il va jouer dans les plates-bandes de la CAQ alors que François Legault est revenu à l'hôtel de ville? Tout semblait bien aller. Mais ici, à l'antenne de Boulevard, il y a plusieurs gens qui m'ont dit, hey, Jeff, ça reste des citoyens de la ville de Québec, ça reste ses citoyens, ça reste des gens qui contribuent à la vitalité économique dans les entreprises, pour ça qu'il le fait. Mais je ne suis pas encore capable de me positionner.
Bien, écoute, c'est exactement de cette manière-là que le maire Bruno Marchand l'a justifié, sa prise de position dans ce dossier-là. Je pense, on l'a vu, là, il y a des acteurs comme la Chambre de commerce et d'industrie et Québec international qui sont sortis pour dire, bien, effectivement, ça a des impacts parce que la ville de Québec compte environ là, un peu plus de 13 000 immigrants temporaires, donc qui n'ont pas leur statut permanent à l'heure actuelle, mais qui sont ici. Puis effectivement, au dire du maire, qui contribuent, qui travaillent, on recense un taux là, d'emploi au-delà de 70 %. C'est plus que pour la population en général, soit dit en passant. Donc, ce que le maire dit, c'est que si ces gens-là, par la force des changements aux politiques d'immigration que sont en train d'imposer les élus de la CAQ, s'ils doivent refaire un processus qui est d'une lourdeur et qui se voit ne pas octroyer la résidence permanente et forcer de quitter finalement la province, voire le pays, ça pourrait être très dommageable pour l'économie de Québec dans un contexte où on souhaite la faire prospérer, cette économie-là, et qu'on a des chantiers assez majeurs qui s'en viennent. On n'a qu'à penser au tramway, qui vont générer finalement plein d'emplois à pourvoir. Sans ces gens-là, le maire Marchand semble dire que ça pourrait être très, très problématique et je pense que sa prise de position dans le dossier s'explique de cette façon.
De cette façon-là, exactement. Dossier à suivre, François Legault semble avoir tendu une certaine main.
Il s'est dit d'accord avec Bruno.
C'est ça.
C'est ce qu'il a dit sur les ondes du FM 93.
Donc, il est d'accord avec Bruno. Est-ce qu'il sera encore d'accord la semaine prochaine? Parce que t'es d'accord avec Christian Dubé, mais il n'est plus d'accord finalement avec ce qu'on a su. Donc, on ne sait pas si ça va changer. François Legault, là, qui, on espère, devrait être avec nous la semaine prochaine. Justement, ça sera une question qu'on va pouvoir lui poser. Émilie Pelletier, merci beaucoup. Je termine avec PO qui nous dit, Sumo, depuis son élection, le maire Marchand a beaucoup plus de leadership. Ça lui a fait du bien, petit 50 % puis 18 conseillers.
Bien, c'est sûr qu'on l'a vu hier lors de l'adoption du budget. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand suspense à l'hôtel de Ville de Québec. Ça, c'est bien évident. Son budget qui est passé, bien sûr, comme une lettre à la poste.
C'est ça.
Avec, je veux dire, l'assentiment de toute son équipe. Il n'y a pas eu de vote dissident. Il y a simplement que les trois conseillers de l'opposition qui ont voté en défaveur. Donc, c'est sûr que ce sera... C'est peut-être un peu plus facile, mais le maire se défend pour dire que ça ne nous empêche pas d'être rigoureux puis de faire les bons choix.
Donc, dossier à suivre. Et merci beaucoup, Émilie, pour ce tour de piste du budget de la Ville de Québec. C'est somme toute un bon budget là, qui a été produit par le maire Bruno Marchand. Merci beaucoup, Émilie Pelletier, journaliste pour Le Soleil en actualité municipale. Max Larouche, ça va déjà être le temps de conclure cette très belle émission. Qu'est-ce qui nous attend au point de Max?
À 10h15, je parle avec Sandra Aubé, que vous aimez beaucoup quand vient le temps de discuter de politique fédérale. Autre changement hier du côté d'Ottawa, un autre député conservateur qui saute la clôture pour passer aux libéraux, ce qui les amène à un petit élu, un petit siège de la majorité. Fait qu'on jase de tout ça avec Sandra. Après ça, il y a Charles Fecteau, que vous aimez bien quand on jase politique provinciale. On va se faire un petit bilan, des bilans qui ont été présentés ce matin par les partis politiques. Pablo Rodriguez, qui encore là, a dû se défendre face aux journalistes. Le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui a eu à répondre à certaines questions, entre autres face aux chiffres sur la souveraineté du Québec qui ne sont pas très avantageux. Du côté de Québec solidaire, j'ai bien aimé, j'ai pogné un bout de tantôt de Sol Zanetti, qui, tu sais, je suis tannant là-dessus, là, les conditions à l'indépendance, ouais, de Québec solidaire. Ben, tantôt, Sol Zanetti les a un peu vraiment étalé, ces conditions-là à l'indépendance. Pour moi, c'est un vrai indépendantiste, t'es pas supposé en avoir de conditions à l'indépendance, mais chez Québec solidaire, ça a l'air qu'on n'est pas des vrais indépendantistes, fait qu'on a nos conditions.
Excellent, donc on va suivre le point de Max. En jase, on aura le débat Farnell-Morissette-Lambert-Drainville. On va évidemment revenir sur cette crise au PLQ. Est-ce que le leadership de Pablo Rodriguez va se poursuivre ou il va devoir démissionner? C'est ce qu'on va parler avec les deux. Pascal Paradis sera également avec nous. On va faire un beau débat sur l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 14 ans. Et Irénée Rutema, notre chroniqueur municipal, va venir parler justement du dossier d'immigration à la Ville de Québec. Irénée, qui est un immigrant, donc ça va être très intéressant de l'entendre sur ce sujet. Restez donc à l'écoute. On a des excellentes émissions qui s'en viennent. Et évidemment, de 14h à 18h, c'est le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro. Max, je te souhaite une super bonne fin de journée.
Merci,
on
toi
se voit
aussi
ce soir au party de Hoke Noël. Away. Excellent. Restez sur les ondes de Boulevard 101. Vous êtes de plus en plus à l'aide et on vous remercie grandement. Passez une belle journée. C'était Marceau le matin avec Jeff Fortin et Max Larouche.
Gâtez-vous avec Montgolfière, Sky Crazy et